Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Bonjour madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue sur RTL pour cette émission d'amour que nous allons faire aujourd'hui, Clémentine, vous le savez.
Oui, vous pouvez aussi m'appeler Néfertiti aujourd'hui.
Pas mal, pas Cléopâtre.
Cléopâtre, c'est bon aussi.
Ça vous va? D'accord, Hatshepsut, ça serait plus compliqué.
Oui, à vos
souhaits. On va toutes les faire, voilà. Bonjour, bienvenue à toutes et tous, vous l'avez compris aujourd'hui, un spécial Égypte en raison de... vous savez cette expo qui se donne en ce moment, Porte de Versailles à Paris, exposition Toutankhamon en famille, vous pouvez y aller vraiment, on va en parler dans un instant avec Clémentine, c'est jusqu'au 1er septembre 2012, et évidemment vous pourrez gagner aujourd'hui, écoutez bien, jusqu'à 14h30, 4 places pour aller à cette expo en famille, vous serez 5 gagnants, le numéro de téléphone c'est le 3-2-1, comme d'habitude, avec un petit 0 à la fin, 3-2-1-0, 32-10 si vous préférez, et vous nous appelez avec une question qui vous permettra donc d'empocher ces 4 places pour aller voir ce que vous avez vu cette semaine, Clémentine. Malheureusement, j'ai achoppé à ce rendez-vous qui fait que vous y étiez seule. J'aurais pu vous tenir par la main de peur que vous ne vous perdiez.
Vous auriez pleuré devant les chaussures de Toutankhamon. Non, écoutez, cette exposition, vraiment, courez-y. C'est absolument extraordinaire. Et ce que vous allez voir là, vous ne le verrez jamais, y compris en Égypte, parce que les metteurs en scène de l'exposition ont eu l'idée de nous faire découvrir le contenu de la tombe, du tombeau de Toutankhamon, tel qu'il était très exactement lorsque Howard Carter l'a découvert. Donc, on voit dans un premier temps tous les objets et ensuite, ils sont représentés à nouveau séparément. C'est magnifique. Les tombeaux, les chambres mortuaires sont à la même échelle, recouvertes de feuilles d'or. C'est une exposition éblouissante, très pédagogique. Vraiment, j'étais aux anges de voir ça. Je ne vous le cacherai pas. Donc, courez-y vite. Vous avez quand même il vous reste 6 mois. Ça va, Laurent. Vous allez pouvoir
Oui, mais alors surtout ceux qui nous écoutent cet après-midi vont pouvoir y courir en famille puisqu'ils gagnent 4 entrées, 4 places gratuites pour aller à cette expo quand ils le désirent. Avec une petite question, 32-10, vous y répondez, il y aura un tirage au sort. Écoutez bien, voici cette question. Et si vous avez bien suivi Clémentine dans son exposition à l'instant, vous n'aurez aucun mal à y répondre. Quel est le nom de l'archéologue britannique ayant découvert le tombeau de Toutankhamon? C'était en 1922. Quel est le nom de l'archéologue britannique qui a découvert le tombeau en 1922. C'est à vous de faire 32-10. On vous offre 4 places pour aller voir cette expo. Aujourd'hui, vous partirez, pour ceux qui vont jouer avec nous dans un instant, à l'abbaye de Régny, qui est une abbaye qui a été construite en 1128. L'abbaye de Régny est assez incroyable. Les moines du 14e l'ont restaurée, évidemment. Vous logerez donc dans ces bâtisses qui ont été sous l'autorité de Saint-Bernard construites en 1128. C'est magnifique, c'est dans l'Auxerrois. C'est à tomber par terre. On a tout mis sur RTL.fr.
Coco Chanel, il y a ses
journées. Oui, elle a ses journées là-bas. Oui, absolument. Et cette abbaye, donc près de Vézelay en Bourgogne, membre de la chaîne d'hôtels de charme, symbole de France, qui sont nos amis qui vous offrent ce voyage. L'intégralité des livres historiques Larousse. Il y aura également un ordinateur portable. Mais pour qui, me direz-vous? Laissez-moi vous présenter Isabelle. Bonjour Isabelle.
Bonjour Laurent, bonjour Clémentine.
Et bonjour mesdemoiselles, mesdames.
Isabelle, vous êtes passionnée d'histoire. Quelle période vous intéresse précisément?
La Renaissance, François Ier, Louis XIV, tous nos bons rois de France et l'Égypte aussi.
Ça tombe bien. Spécial Égypte, ça va être pour vous. Hein. Vous habitez Pontault-Combo, c'est en Seine-et-Marne. Vous êtes inscrite avec Apolline, qui a 16 ans et demi, qui est en classe de première, qui elle habite Toulon. Bonjour Apolline.
Bonjour.
Bonjour Apolline.
Ça va Apolline?
Ça va.
Il fait beau à Toulon?
Non, aujourd'hui il pleut.
Ok, mais t'inquiète pas, c'est partout pareil. Apolline, quelle est ta période favorite en histoire?
Et moi, c'est 17-18e.
17 et 18e. On va voir ce que ça peut faire pour cette spéciale Égypte aujourd'hui. Alors, mesdames, aujourd'hui, vu que nous faisons cette spéciale Égypte en raison de l'expo Toutankhamon, vous entendrez une magnifique voix commenter l'expo Toutankhamon à la porte de Versailles, place que nous vous offrons. Et bien, sachez que le bonus est un bonus pyramidus. Alexandrie. Là, ce que vous entendez, donc, c'est un chanteur momifié.
C'est pas Marin Marais, hein, oui.
Ah, mais voilà, c'est ce qu'on écoutait dans la troisième dynastie, voilà. Alexandra Alexandrie. Et nous serons votre phare d'Alexandrie, évidemment, aujourd'hui, pour essayer de vous emmener. Si, regardez, vous êtes lumineuse, Clémentine. Nous serons votre phare. Alors, je disais, ce bonus, trois questions pour y parvenir, des questions qui sont relatives à vos affinités historiques, évidemment, vos situations géographiques. Êtes-vous prêtes, Isabelle et Apolline ?
Oui.
Alors on y va, voici la première question, bonne chance. Sous quel surnom, titre d'une pièce de théâtre est connue la maréchale Lefebvre, dont le mari fut maire de Pontault-Combo
entre...
Ok, ça va, c'est fait. Pièce de Victorien Sardou. Hein. Grande interprétation de Clémentine Célarier que je salue au passage. Voici votre deuxième question. De quelle dynastie Louis XIV est-il le troisième roi ?
Les Bourbons.
Bien sûr.
Bien joué, mesdames. Henri IV et Louis XIII sont les deux premiers, Louis XIV étant effectivement le troisième. Voici votre troisième question. Oh, comme c'est beau, cette musique grand siècle. Quel souverain fit du français la langue officielle du royaume par l'ordonnance de Villers-Cotterêts signée en 1539 ?
François Ier.
Bien joué.
Oh là là là, c'était du gâteau. Fausse.
Là, c'était rigolade, hein. Bon, les filles, bien joué.
Bonus Pyramidus, c'est très bien.
On va voir Alexandre et Alexandra. On a notre bonus Pyramidus. Isabelle et Apolline, vous l'utilisez quand vous le désirez, évidemment. Dans un instant, c'est Apolline, 16 ans et demi, qui habite Toulon, passionnée d'histoire, qui joue avec sa tante, qui elle habite Pontault-Combo. Tout ça est sur RTL. Vous jouez avec Agathe et Mylène, qui sont au standard, au 32-10. La question est très simple pour avoir 4 places pour aller voir l'expo à Porte de Versailles consacrée à Toutankhamon. C'est facile, vous les empochez discrètement sur une bonne réponse. Quel est le nom de l'archéologue britannique ayant découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922?
Vous écoutez RTL. RTL.
Le grand quiz des histoires de France.
Laurent Boyer.
On est avec Isabelle et Apolline pour ce grand quiz des histoires de France spécial Égypte aujourd'hui. Si vous aimez ça, si vous avez lu Christian Jacques ou autre et que vous êtes passionné par l'Égypte, vous allez apprendre plein de choses aujourd'hui. Apolline, est-ce que tu es prête ? 16 ans,
oui,
Toulon.
Je suis prête.
T'es prête ? Tu sais que tu as ton bonus Pyramidus, hein ?
Oui.
Ouais ? Bon allez, on y va. Première question. Spécial Toutankhamon, les amis, vous pouvez téléphoner au 3210 pour rafler les places. Hein. À sa naissance, le fameux Toutankhamon s'appelait, écoute bien, Toutankarton. C'est vrai ou c'est faux ?
C'est faux.
Bravo, voilà. Voilà, attends. Non, celle-là, elle était un peu gagnée, mais tu vas voir que on n'est pas si loin, en fait. C'est faux, bien sûr. Mais la vérité, Clémentine, son nom de naissance était Toutankhaton.
Ben oui, parce que c'est le fils d'un pharaon extrêmement célèbre, Akhenaton, dont on connaît toute l'histoire si on a lu Sinoé l'Égyptien de Mika Waltari, magnifique livre sur l'Égypte ancienne et le règne d'Akhenaton. Mmh. Alors Akhenaton, c'est le pharaon qui a totalement bouleversé la religion égyptienne parce que durant son règne, on passe d'un polythéisme au monothéisme. C'est-à-dire on n'a plus qu'un dieu, le dieu vénéré étant Aton, le dieu solaire.
Mais alors auparavant, les Égyptiens adoraient toute une série de dieux et les pharaons avaient un dieu tutélaire, on va dire.
Oui, et pour cette dynastie, donc la 18e, il s'agissait d'Amon. D'ailleurs, avant de s'appeler Akhenaton, ce pharaon portait le nom... ça n'a rien à voir, d'ailleurs, c'est extrêmement logique. Ouais. Oui, il s'appelait Amenhotep IV ou Amenophis IV en grec, mais il a mis Aton dans son nom.
Ouais. Et donc, à sa naissance, notre pharaon vedette, on va dire, fils du précédent, est également consacré à Aton, d'où son nom de... Toutankhaton.
Voilà, mais comme il y a cette révolution religieuse, mais révolution religieuse très mal vue par le clergé thébain naturellement, parce que ce clergé célébrait Amon, Akhenaton, surtout d'autant plus mal vu qu'il privait le clergé de son pouvoir, qui quitte Thèbes, il déménage dans une capitale à 300 km au nord, d'une ville qu'il fait construire, Akhenaton complètement dédié au dieu soleil. Alors là évidemment, les prêtres d'Amon ne sont pas contents du tout.
Et c'est là que naît en fait notre Toutankhamon.
Mais oui, mais son papa va l'élever dans le culte d'Aton. Et quand Akhenaton disparaît, il est encore jeune, il a 7 ans, hein, le garçon Toutankhaton. 2 ans plus tard, il monte sur le trône. Et ceux qui gèrent alors le royaume sont des partisans de l'ancienne religion, donc du culte d'Amon. On revient alors au culte d'Amon. Et Toutankhaton devient Toutankhamon, pardon. Oh, c'est moi qui perds mon latin.
Toutankhamon. Hein, non, attends, c'est pas simple.
Toutankhaton devient Toutankhamon. Voilà, la révolution religieuse de son père est terminée. Et nous, ça nous nous simplifie la vie.
Voilà, ben, on vous a tout mis sur RTL.fr. Si vous n'avez pas bien compris cette affaire, cet embroglio en figurique, eh bien sachez qu'il y a explication, détail, thèse, antithèse, synthèse sur RTL.fr toujours. Apolline, en tous les cas, toi tu as eu le nez fin, comme celui de Cléopâtre, pour répondre et donc tu as marqué ton point. Voici ta seconde question, écoute bien. Écoute bien. Le fameux nez de Cléopâtre est une légende due au philosophe Blaise Pascal. À ton avis, c'est vrai ou faux? Tu sais, ce fameux nez si fin dont on parle, de Cléopâtre. Eh bien, ça, c'est une légende, à ton avis.
On va dire que c'est vrai.
Ben, t'as bien raison. Et oui, c'est une pensée.
C'est une légende due à Pascal.
Mais oui, une pensée, je disais, mais bon. Dites, mais alors ça, c'est drôle. Comment Pascal en est-il venu à parler du nez de Cléopâtre?
Oui, alors c'est en effet relativement paradoxal, parce que Cléopâtre, alors comment peut-on l'expliquer? Cléopâtre était une lagide. C'est-à-dire qu'elle descendait de Ptolémée, un général d'Alexandre le Grand, et donc macédonien comme Alexandre le Grand. Donc, on peut imaginer que les Égyptiens étaient impressionnés par son nez, parce qu'eux-mêmes avaient plutôt un nez anamite, plat, un nez plat avec des
narines épatées.
Narines. Voilà. Tandis que Cléopâtre avait hérité de ses aïeux, l'agide macédonien, en somme le nez grec, si vous voulez, le nez busqué des statues grecques. Voilà.
Voilà, alors le hic, c'est qu'aucun auteur de l'Antiquité ne fait allusion au nez de Cléopâtre. Non, mais c'est pas une blague. Les seuls à le mentionner, donc, sont Pascal au XVIIe siècle, et surtout, écoutez bien, Uderzo et Goscinny dans Astérix et Cléopâtre.
Voilà. Réalité, Laurent, il faut bien le dire, on ne sait pas trop à quoi ressemblait Cléopâtre, car les sculptures ou les pièces de monnaie qui la représentent sont idéalisées ou stylisées pour répondre au canon de l'art égyptien ou hellénistique. Il faut donc s'en tenir à ce que les auteurs de l'Antiquité ont écrit à son sujet, et voici ce que nous en dit Plutarque.
Sa beauté n'était pas remarquable, mais son charme irrésistible grâce à sa conversation et à sa voix. Et Dion Cassius nous dit d'elle, elle était splendide à entendre.
Voilà, alors de toute façon, si Cléopâtre avait été très belle, elle n'aurait été qu'une beauté parmi d'autres. Ce qui en faisait à l'époque une femme d'exception, c'était sa culture et son intelligence politique. Il y a une magnifique phrase d'André Malraux qui résume cela en comparant Cléopâtre à Néfertiti, dont on connaît les traits, mais non la personnalité.
Néfertiti est un visage sans reine, Cléopâtre est une reine sans visage. Malraux.
Bravo Dédé.
Il s'en prie. Voici ta troisième question, Apolline. T'as deux bonnes réponses sur deux. T'es pas à l'abri d'empocher l'intégralité des livres historiques Larousse. Voilà une bonne chose. Spécial Égypte toujours, écoute bien. Dans l'Égypte ancienne, les pharaons se marient entre frères et sœurs. Ouais. C'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
Oui, c'est vrai, bravo. C'est vrai, et là, vous allez apprendre quelque chose.
Clémentine,
je sais que là, je vous touche.
Enfin, pas bravo au Ptolémée.
Avançons. L'inceste est évidemment proscrit entre gens du peuple. Mais dans l'aristocratie, chez les pharaons, on croit, en le pratiquant, en fait, se comporter comme des dieux.
Et oui, parce que dans l'Égypte antique, une grande partie des unions divines étaient incestueuses. Osiris et Isis sont frères et sœurs. La figure du frère époux est très importante. Donc le pharaon, qui lui-même est un dieu, épouse son frère ou sa sœur et peut avoir des enfants aussi avec sa fille.
Ben tiens, c'est ainsi que Ramsès II aura eu en fait des enfants avec au moins deux de ses filles.
Et quant à Cléopâtre qui épouse son petit frère Ptolémée, un gamin qui avait 10 ans, qu'elle fera d'ailleurs éliminer, eh bien elle-même, figurez-vous Laurent, était issue d'une lignée de 12 incestes frères et sœurs successifs.
Et comme quoi
elle n'en était pas moins une des plus belles, plus brillantes reines de
exactement,
de son
exactement.
Époque.
On a mis beaucoup d'informations complémentaires concernant cette question sur RTL.fr. C'est bon, on donne toujours le petit plus de Madame Clem. Hein, c'est un peu ça. Trois bonnes réponses sur trois. Apolline, tu viens de rafler l'intégralité des livres historiques Larousse. Ça, c'est
fait. Merci.
Je t'en prie. Voilà, ça c'est bien. Donc, en fait, ta tante Isabelle va jouer dans un instant pour du temps complémentaire pour la finale. Vous avez toujours votre bonus Pyramidus aujourd'hui, spécial Égypte. Le voilà. C'est bien ça. Le bonus du jour. Et tout à l'heure, donc, il faudra jouer pour l'ordinateur portable qui sera pour toi, évidemment, Apolline. Spécial Égypte avec une question. Vous aussi, vous pouvez aller voir l'expo Toutankhamon, porte de Versailles, que nous vous offrons cet après-midi au 3210. Comment s'appelait ce monsieur qui a découvert en 1922, cet Anglais qui a découvert le tombeau de Toutankhamon? 3210, à vous de faire, à tout de suite.
Vous écoutez RTL.
RTL, Laurent Boyer, Le grand quiz des histoires de France.
La spéciale Égypte aujourd'hui, Jeanne. Alexandrie, Alexandra. Ouais. On a retrouvé du son d'époque, hein, c'est comme ça. Une question, si vous voulez aller à cette expo dont vous parlez Clémentine tout à l'heure, cette expo Toutankhamon que vous allez visiter en famille. 4 places, 5 gagnants, tirage au sort évidemment au 32-10. Avec cette question, pour gagner, rafler ces 4 places, quel est le nom de l'archéologue britannique ayant découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922? Ce n'est pas compliqué, les amis. À vous de faire, 32-10. Agathe et Mylène vous attendent au standard d'RTL. En attendant, Apolline, qui a 16 ans, a fait un carton. 3 bonnes réponses sur 3. Voici maintenant sa tante Isabelle, qui habite Pont-au-Combo, pour 2 questions avec énormément de détente et de relaxation. Elle ne compte que pour du temps complémentaire pour la finale. Elle était bonne, Isabelle, votre nièce, hein?
Oui, oui. Hein? J'en doutais pas.
Ah, voilà. Vous connaissez sa spécificité et sa promptitude à répondre correctement aux questions d'histoire. Hein. Êtes-vous prête, vous, ma belle?
Oui.
C'est quoi? Non, c'est ma rhétorique qui vous dérange, Clémentine.
Non, je n'ai rien dit, cher ami, je ne me permettrai pas.
Pas le semble.
À Dieu ne plaise.
Voici votre question, bonne chance.
C'est moi la persifleuse. Allez-y.
Allez, Isabelle, êtes-vous prête, on y va?
Oui.
Voici une question pour Clémentine et pour vous. Que diable Napoléon allait-il faire en Égypte? Il était en route pour conquérir l'Inde, tel Alexandre le Grand, où il alla... Vous voyez, je vous tout de suite,
c'est
je
gentil,
donne...
Hein. Vous avez quelque chose à me demander?
Je pense. Où il alla dans le cadre du... Il y alla dans le cadre d'une stratégie visant à affaiblir les Anglais.
La stratégie à affaiblir les Anglais?
Bah, c'est quand même notre objectif majeur depuis des siècles. Hein.
Oulalalala. Et oui, c'était pour affaiblir économiquement les Anglais. L'objectif était en fait de leur couper leurs ressources venant des routes des Indes orientales. Hein. L'Inde étant alors l'une de leurs précieuses colonies.
Oui, enfin, ils nous l'avaient piqué, hein, plus
oui,
exactement.
Faut dire aussi.
Alors, Laurent, l'Égypte était sur la route des Indes, empruntée par les commerçants anglais. Donc, Bonaparte décide d'embarquer 30 000 hommes pour couper cette route des Indes à Alexandrie.
Voilà, la bataille des pyramides est une des plus célèbres victoires de Napoléon. Alors, Clémentine, en fait, j'ai envie de dire, pourquoi un tel succès? Alors que, dans le camp d'en face, les soldats égyptiens, les fameux Mamelouks, et leurs alliés étaient 2 fois plus nombreux que les forces françaises.
Laurent, tout simplement parce que voilà, la bataille des pyramides, c'est avant tout un immense succès de stratégie militaire, comme Bonaparte les affectionnait. Et notre futur empereur a écrasé les Mamelouks avec une version modernisée d'une méthode bien connue des lecteurs d'Astérix, le carré romain. Alors Bonaparte va constituer des carrés de 2000 hommes à géométrie évolutive, hein, de 3 à 6 rangées selon la situation, en partie mouvant dans les phases d'attaque, mais toute statique et bien resserrée et disciplinée pour contrer les puissantes charges de Mamelouk. Donc vraiment, l'armée française à la bataille des pyramides, c'est un peu la 7e légion de César en marche pour traverser le Rubicon.
Avec en plus, comme souvent chez Napoléon d'ailleurs, un autre flanc ouvert à l'arrière pour diviser les troupes ennemies et les affaiblir.
Oui, ça j'avais oublié de le dire, je vous remercie de le préciser. Voilà. Et alors le général Desaix, un magnifique héros, fut positionné en arrière des lignes ennemies pour cueillir les ennemis se repliant. Résultat de la bataille, une trentaine de morts et 3... Écoute, c'est extraordinaire.
Non, c'est rare, c'est hallucinant.
Une trentaine de morts et 300 blessés dans les rangs français contre 20 000 Mamelouks tués et 10 000 blessés ou faits prisonniers. Donc c'est vraiment un bilan incroyable et un triomphe militaire et aussi pour le peu de victimes. Et là, de notre côté, il faut quand même, évidemment, de l'autre côté, déplorer beaucoup de victimes.
C'est la légendaire bataille où Bonaparte, souvenez-vous, avait dit à ses grognards au pied des pyramides avant l'assaut. Bon, nous allons combattre, soldats. Songez que du haut de ces monuments, 43 siècles vous contemplent.
Oh, dites-moi, vous êtes gonflé, Laurent.
Et quoi, la paillonnée?
Non, vous me refaites ça.
Non,
vous
j'ai fait la paillonnée.
Refaites-moi ça sur le champ correctement.
Nous allons combattre, soldats. Songez que du haut de ces monuments, 40 siècles vous contemplent.
Bravo.
Et ça sent Napoléon qui était. Voilà qui est beau. Voici votre deuxième question. Évidemment, c'est une question sur l'empereur. Vous imaginez, Isabelle, c'est très touchy hein, avec Claire. Alors, à propos de Napoléon en Égypte, tiens, restons-y. Quelle stèle, trouvée en Égypte en juillet 1799 par l'officier du génie Pierre-François-Xavier Bouchard, se trouve aujourd'hui au British Museum?
La pierre de Rosette?
La pierre de Rosette, qui permit à Champollion de décrypter les hiéroglyphes, Clem.
Et oui, c'est en faisant des travaux de terrassement dans le village de Rosette en Égypte que Bouchard, qui était un jurassien, figurez-vous, découvre cette stèle de basalte noir. Or, sur cette pierre est gravé un édit du pharaon Ptolémée V, d'une part en hiéroglyphes, D'autre part, en démotique, qu'est-ce que c'est que le démotique? C'est une version simplifiée, plus stylisée des hiéroglyphes. Et enfin, et surtout, en grec. Donc cette stèle, il s'en rend compte, pourrait bien être la clé pour comprendre les hiéroglyphes.
Quand le général Monou capitule en 1800, en fait, les Anglais exigent de récupérer toutes les trouvailles archéologiques des Français, qui rendent donc la stèle. Rapportée à Londres, la pierre de Rosette devient en 1802 l'objet le plus visité du musée. Et c'est donc sur une copie des textes que Champollion va travailler et trouver la solution pour déchiffrer les hiéroglyphes.
Il la trouvera le 14 septembre 1822 et le premier mot déchiffré par Champollion sur la pierre de Rosette, ce sera Ramsès.
Et voilà, vous êtes plein Égypte ce matin avec ce grand quiz, enfin ce midi avec le grand quiz des histoires de France. 32-10, c'est toujours à vous de faire. Apolline et Isabelle ont tout gagné pour l'instant, l'ordinateur portable dans un moment. Et vous savez quoi? À la seconde près, il est 14h.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Madame, monsieur, bienvenue sur RTL. Si vous venez de nous retrouver, grand quiz Histoire de France consacré aujourd'hui à l'Égypte en raison de cette expo Toutankhamon qui se donne porte de Versailles, qui est magnifique, comme vous l'a dit Clémentine tout à l'heure. Et bonne nouvelle, juste donc dans cette émission, nous vous offrons 4 places pour aller voir en famille cette exposition. Donc vous appelez le 3210 et nous vous offrirons tout à l'heure ce blot de 4 passes avec une question assez simple. Hein. Quel est le nom de l'archéologue britannique ayant découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922, 3210, à vous de faire. Agathe et Mylène attendent vos appels, tout ça est en direct. Et vous partirez en famille voir cette magnifique exposition Porte de Versailles à Paris. Elles sont deux à jouer avec nous, Isabelle et sa nièce Apolline. Elles ont raflé l'intégralité des livres historiques Larousse sans aucune faute, sans achoper une question. Les voici maintenant parties avec en gain un ordinateur portable. Et qui donc s'y colle? C'est Isabelle. Isabelle?
Oui.
Vous avez toujours votre bonus Pyramidus. Hein. Alexandra, vous savez, aujourd'hui, c'est ça. Alexandra, Alexandrie, bonus Pyramidus. Êtes-vous prête, Isabelle?
Oui.
Voici une question avec notre partenaire. Ça m'intéresse histoire. Évidemment, vous imaginez bien que le grand quiz des histoires de France est dans Ça m'intéresse histoire. Voici cette question, écoutez bien. À quel endroit a été retrouvé Héracléion, une cité égyptienne disparue? Au fond de la Méditerranée ou aux sources du Nil? À quel endroit a été retrouvé Héracléion? À votre avis, au fond de la Méditerranée ou aux sources du Nil?
Aux sources du Nil? Oh!
Au fond de la Méditerranée. En fait, c'est dans la baie d'Aboukir, hein, Clémentine.
Aboukir, comme le nom de la célèbre bataille. Hein. Hérodote en parle dans sa description de l'Égypte de cette cité. C'était une ville très importante. On a retrouvé un temple dans lequel les pharaons venaient recevoir leurs titres.
Héraclion était en quelque sorte la porte d'accès à l'Égypte, à la fois douane et système de défense. Hein. Les navires grecs devaient s'y arrêter pour payer des taxes avant de pouvoir remonter le Nil.
Et cette ville a disparu au 8e siècle à la suite d'un violent raz-de-marée. Ça l'a détruite, mais ça l'a aussi conservée d'une certaine manière, hein, puisqu'elle a été ensevelie sous les flots. Elle a été retrouvée par l'archéologue sous-marin Franck Godiot par 8 mètres de fond, sous une épaisse couche de sédiments.
Oui.
Et il a pu cartographier la ville sur près de 3 km carrés.
Et alors l'exposition Trésor englouti d'Égypte, qui est passée d'ailleurs au Grand Palais, c'était entre 2006-2007, montrait une partie des objets retrouvés à Héracléion.
Et alors Godiot, qui avait déjà identifié le phare d'Alexandrie, il avait fait aussi des recherches sous-marines, c'était absolument passionnant, eh bien ce mois-ci il va commencer une nouvelle campagne de fouilles pour étudier le quartier sacré de la cité.
Oui, alors ça, évidemment, moi je vous conseille également, vous avez raison sur le phare d'Alexandrie, il y a un document télé qui est remarquable, qui dure 90 minutes, qu'on peut obtenir, allez voir sur internet, je vous le conseille, c'est magnifique, à chaque fois ça a été filmé. Et alors à lire dans Ça m'intéresse histoire, il y a ce fameux dossier sur la piste des cités disparues dont on a tiré cette question.
Rêver, hein.
C'est bon.
D'Égypte, ou alors la porte d'Ishtar, ancienne porte de Nabucodonosor avec ses jardins suspendus. Je devrais devenir guide touristique, moi.
Ouais, vous êtes bonne, à Samarcande, ça serait magnifique. Voici votre deuxième question, Isabelle. Pour remercier l'Égypte pour l'obélisque, la France lui offrit une horloge ou une statue? Vous avez le bonus Pyramidus, hein, si vous voulez.
Moi, je vais prendre le bonus.
Allons-y.
Alexandrie, Alexandrie, où l'amour danse avec
Vous avez raison de prendre ce bonus pour remercier l'Égypte pour l'obélisque.
Facile,
oui, elle n'est pas simple, cette question. La France lui offrit une horloge ou une statue. Eh bien, c'est une horloge ornant aujourd'hui encore la citadelle du Caire. Horloge dont les Kérotes, en fait, prétendent avec esprit qu'elle n'a jamais fonctionné.
Ah bah, peut-être que l'horlogerie française n'est pas à la hauteur de l'horlogerie suisse, mais enfin, c'est marrant de penser qu'on a offert une horloge aux Kérotes en échange de notre belle obélisque de la place de la Concorde. Alors, cet obélisque qui occupe le centre de la place de la Concorde est un des plus anciens des monuments parisiens, puisqu'il est contemporain du pharaon Ramsès II, environ 1300 ans avant Jésus-Christ. Les arènes de Lutèce à Paris ne datent que du 1er siècle après Jésus-Christ. C'est une rigolade.
L'obélisque est un cadeau que fit le vice-roi d'Égypte Mehmet Ali à la France en 1830. Et c'est l'égyptologue français François Champollion qui alla lui-même le choisir sur le site de Thèbes.
Alors vous savez, en réalité, Mehmet Ali avait généreusement offert les deux obélisques érigés devant le temple de Louxor. Mais finalement, un seul fut abattu et transporté en France. François Mitterrand a officiellement rendu le second à l'Égypte sans que celui-ci n'ait jamais été déplacé.
Ça,
mais c'est récent, c'est drôle aussi.
Oui, ça c'est drôle cette histoire. Pour Champollion, en fait, c'est peut-être une émotion incroyable. C'est lui qui a réussi pour la première fois de l'histoire à déchiffrer les hiéroglyphes en 1822. Mais il ne met les pieds en Égypte, pays à laquelle il a consacré sa vie, qu'en 1828-1830.
Et ça, le malheureux étonnant, Champollion mourra d'ailleurs 2 ans plus tard d'épuisement à 41 ans.
Ça a dû être une expédition pour ramener ce colosse quand même. Vous imaginez l'obélisque ?
Bah oui, un voyage de 3 ans, Laurent, au terme duquel le monolithe est finalement érigé sur la place de la Concorde le 25 octobre 1836. Ce fut une opération à risque parce qu'il a fallu des machines élévatrices et de gigantesques cabestans pour soulever ce monument de 23 mètres de haut et de 130 tonnes. En tout cas, une chose est sûre, si Champollion avait été encore en vie au moment de cette opération, il aurait été absolument furieux.
Attendez, pourquoi il aurait été furieux, Champollion ?
Parce que Champollion avait expressément demandé à ce que l'obélisque soit dressé dans la cour du Louvre, près des collections égyptiennes réunies par ses soins. Mais de toute façon, la place de la Concorde a finalement été un choix politique.
Oui, à cause du passé révolutionnaire de la place, je
bien
suppose.
Sûr.
Parce que c'est là qu'on avait décapité à tour de bras pendant la Révolution française.
Tout à fait, Laurent, parce que placer un monument totalement étranger à l'histoire nationale sur ce haut lieu de la Révolution française devait empêcher que partisans ou détracteurs de la Révolution ne l'identifiassent à leur cause. Oh, le bel imparfait du subjonctif. Je suis très en forme. Vous pourriez me faire un petit compliment.
Mais je vous le fais, belle amie, sachez-le. C'était un généreux cadeau de la part des Égyptiens. Quand on va à Louxor de nos jours, cet obélisque fait vraiment défaut.
Comment, Mehmet, as-tu pu nous donner ton bel obélisque maintenant quand on va à Louxor? J'allais dire, ça craint.
Oui, ça craint du boudin. Okay, voilà, encore un effet rhétorique différent, on va dire. Voici, alors, une bonne réponse pour l'ordinateur portable. 50 secondes pour la finale, ça va pas mal, les filles. Isabelle, voici votre troisième question. C'est 2 bonnes réponses, non ? Une.
Ah bah, il y a eu le bonus...
Le bonus Pyramidus.
Pyramidus.
Voici la question. En 1976, quel chef d'État égyptien reçut les honneurs de la garde républicaine que l'on entend là, à son arrivée au Bourget ? Nasser ou Ramsès II ?
Nasser.
Et non,
la question était Wislard. Là, vraiment.
Ah, ça, c'est tout, moi.
Ramsès II, pharaon de la 19e dynastie, qui, de tous les pharaons, eut le règne le plus long, puisqu'il régna 66 ans. En fait, il a laissé tant de traces architecturales et artistiques que tous les départements d'égyptologie des musées du monde possèdent des représentations de lui. Ramsès II, c'est un peu notre Louis XIV,
Clémentine. Oui, je crois, oui, on peut dire ça. Oui,
soleil,
oui, c'est bien, Laurent, oui. Alors, le 26 septembre 1976, sur la base aérienne du Bourget, le ministre des Universités, le général dirigeant la maison militaire du président de la République, le commandant de la base et l'ambassadeur d'Égypte guettent l'arrivée d'un important homme politique. La garde républicaine lui rend les honneurs réservés au chef d'État. Ce monsieur a 3189 ans, il se nomme Ramsès II, et c'est à sa momie que viennent d'être rendus les honneurs militaires.
Non mais attendez, pourquoi fait-on venir la momie de Ramsès II en France ?
Pour la soumettre aux techniques les plus modernes d'investigation, exploration, radiologique, endoscopique, investigation dans le domaine dentaire, recherche microscopique, médico-légale, etc.
Oui, mais alors que va-t-on trouver de beau ?
On va trouver notamment une très grave lésion de la mâchoire de Ramsès II liée à une infection dentaire. Ces lésions, probablement d'ailleurs, étaient mortelles. Autre conclusion, Ramsès II ne pouvait être le pharaon qui poursuivit Moïse et les Hébreux, car il mourut dans d'affreuses souffrances, entraînant une incapacité physique totale. Donc il n'était pas en train de leur courir après sur son
66
char.
Ans de règne, il faut s'en souvenir. Bon, Isabelle, une bonne réponse pour l'ordinateur portable, ce qui veut dire que pour Apolline dans un instant avec deux questions. Il faudra faire un sans faute pour avoir cet ordinateur portable. Le grand quiz des histoires de France avec aujourd'hui Toutankhamon pour la famille. 4 personnes, 32-10. Qui a donc découvert le tombeau de Toutankhamon, cet anglais en 1922? C'est à vous de faire, 32-10. Et on se retrouve avec Apolline dans un petit instant. Culture, divertissement, sourire et musique, évidemment, c'est tout ça RTL.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le grand quiz des histoires de France.
Avec Apolline, qui a 16 ans et demi et qui habite près de Toulon, et cette fois-ci, deux questions, il faut deux bonnes réponses, Apolline. Vu que votre tante Isabelle a utilisé son bonus Pyramidus, est-ce que ça va, Apolline? Pas trop de pression?
Non, ça va.
Bon, allez, on y va, voici ta première question, Apolline, bonne chance. Cléopâtre aurait parié avec le général romain Marc-Antoine qu'elle engloutirait 10 millions de sesterces en un seul dîner. Et pour ce faire, elle avala un énorme diamant. C'est vrai ou c'est faux? Réfléchis bien. Avaler un énorme diamant.
Non.
Bah oui.
Bah oui, bah
non.
Bien sûr.
Non, bah t'imagines. Non, c'est faux. Mais en revanche, elle n'avala pas un diamant, mais fit dissoudre une perle d'une valeur inestimable dans du vinaigre, Clémentine.
Eh oui, Laurent, elle avait fait servir Antoine à un banquet somptueux, mais n'ayant rien d'inhabituel en réalité. Alors vers la fin du repas, elle fait apporter un vase rempli de vinaigre. Elle portait à ses oreilles les deux plus grosses perles connues au monde, dont chacune valait 10 millions de sesterces.
Alors, elle détacha l'une des perles, la plongea dans le liquide et... lorsqu'elle fut dissoute, la
voilà. Voilà. Et alors, elle se disposait à engloutir l'autre perle de la même façon, quand un certain Plancus, arbitre de ce pari, mit le holà et prononça qu'Antoine était le vaincu.
Mais qu'est-il arrivé à la seconde boucle d'oreille?
Alors,
de fête?
Alors, écoutez, ça dépend des avis. Dans son histoire naturelle, Pline l'Ancien raconte qu'elle connut un destin glorieux. Après la mort de Cléopâtre, elle fut sciée et transformé en deux pendants d'oreilles pour la Vénus du Panthéon à Rome. Bon, je précise tout de suite que l'on ignore si cette histoire de perte s'est produite vraiment ou si c'est une pure légende.
Oui, enfin,
c'est une belle histoire, ça. C'est pour montrer à quel point l'Égypte était prospère.
Voici ta deuxième question. Deux bonnes réponses pour l'ordinateur portable. Il faut absolument que tu répondes correctement à cette question, Apolline.
Hein.
Ouais. Ok, t'es prête?
Ouais, c'est bon.
J'y vais. Quel grand opéra a un livret signé de l'égyptologue français Auguste Mariette? C'est L'enlèvement au sérail ou Aïda? Grand opéra signé d'Auguste Mariette.
Aïda.
Bravo!
L'étendant des régiments d'Afrique.
Eh bien, Apolline.
Les chasseurs, l'Espagne, les goumiers.
Apolline, te voilà avec l'ordinateur portable. Bravo, tu as été excellente sur le coup.
Merci.
Aïda, l'opéra de Verdi, commande du calife d'Égypte pour l'inauguration du canal de Suez. Mais qui était ce Mariette?
Oh, on m'avait cloué le bec, j'allais finir. Ça finissait par chevauchon, sans répit, nos fiers coursiers. Bon, alors, Auguste Mariette, il est né à Boulogne. Hein. C'est moins sexy qu'Aïda à Gizeh. Il est né à Boulogne-sur-Mer, pardon. Il est tombé dans l'égyptologie à 16 ans, quand il va voir deux sarcophages et une momie exposés au musée de sa ville, Boulogne-sur-Mer. Il apprend tout seul le copte, le syriaque, l'arabe, c'est un genre de champollion, hein, l'araméen aussi, ainsi que le déchiffrement des hiéroglyphes, naturellement. Il a pour cousin Nestor l'hôte, qui était dessinateur et peintre, et qui surtout a accompagné Champollion en Égypte.
Alors, à force de ténacité, évidemment, il réussit d'abord à intégrer le Louvre, puis en 1850 à partir en Égypte, pays qu'il ne quittera plus.
Alors, il a quelques grandes réussites à son actif, hein, comme le désensablement du Sphinx, c'est lui, la découverte du scribe accroupi, la découverte du temple de Sérapis de Memphis, qui lui valent la reconnaissance de ses pairs et des autorités égyptiennes, et le nouveau vice-roi d'Égypte, Saïd Pacha, le nomme directeur des antiquités égyptiennes.
Et c'est Mariette qui va stopper d'ailleurs le pillage du pays en créant le musée du Caire, bonne idée.
Et même Laurent, il va devenir égyptien, il sera fait bey, puis Pacha, il meurt au Caire et son tombeau est face au musée qu'il a créé à Mariette, et voilà.
Voilà, donc il faut savoir que voilà, c'est Mariette qui a créé le musée, le fameux musée du Caire.
Où se trouve le tombeau de Toutankhamon.
Alors, vous voilà, mesdames, Isabelle et Apolline, avec 80 secondes pour la finale. C'est pas mal du tout, 1 minute 20. Vous avez l'intégralité des livres historiques Larousse. L'ordinateur portable est gagné pour Apolline. Et vous partirez peut-être dans cette magnifique abbaye que nous avons mis, l'abbaye de Régny, qui date de 1128. Nous avons tout mis sur RTL.fr, vous allez voir, c'est dans l'Auxerrois.
Très joli, c'est la Coco Chanel faisait des beaux dîners avec le duc de Windsor, donc c'est extrêmement chic.
Magnifique, très très bel endroit. Allez, bonne chance, il y aura trois questions dans un instant. Vous écoutez bien le Grand Quiz des Histoires de France. Vous qui nous écoutez, vous pouvez aller voir l'exposition Toutankhamon en famille. Une question, qui a découvert le tombeau de Toutankhamon en 1922? Allez, on y va, c'est parti, 32.
RTL. Laurent Boyer, le Grand Quiz des Histoires de France.
Vous écoutez RTL.
RTL, jusqu'à 14h30, le Grand Quiz des Histoires de France.
Spécial Égypte aujourd'hui. Et Isabelle et Apolline ont très très bien joué. 1 minute 20, mesdames. Une est à Pontecombo, l'autre, sa nièce, est à Toulon. 1 minute 20 pour 3 questions. Et partir pour ce séjour de 4 personnes à l'abbaye de Régny, près de Vézelay, dans le... en Bourgogne, en fait. Êtes-vous prêtes, Apolline et Isabelle?
Oui, bien, oui.
Alors attention, c'est parti, 1 minute 20, on y va, les filles. Avec la pyramide de Khéops, quel est l'autre monument faisant partie des 7 merveilles du monde, se trouvant en Égypte? Monument aujourd'hui disparu, hein?
Le phare d'Alexandrie.
Très bien. Joli. Quel pays se retire définitivement d'Égypte le 1er octobre 1801, laissant le champ libre aux Anglais?
La France.
Bah oui. Oui, bravo. La France, bien joué. Quel diplomate français a été le promoteur du canal de Suez? Oui, c'est lui. Vous le connaissez, Isabelle?
Les Lesseps.
Voilà. 32 bravo. Secondes. Magnifique, Isabelle et Apolline. Ferdinand de Lesseps, bien sûr, un canal de Suez.
Oui, il était consul au Caire et c'est lui qui a lancé l'idée du canal de Suez. Mais enfin, il faudra 20 ans pour qu'il soit réalisé. Hein, mais
ouais, il a fallu un petit peu de temps. Alors là, la France, vous l'aviez dit, Clémentine, tout à l'heure. Hein, on a quitté le 1er octobre 1801. Napoléon, boum, on laisse le champ libre aux Anglais.
Menou qui a succédé à Kléber, qui avait été assassiné par un certain Souleyman. Et cette andouille de Menou, alors il a épousé une dame locale, il s'est converti à l'islam, mais il a appelé son fils Souleyman. C'était malin. L'assassin de Kléber.
Voilà, et donc de fait, on en parlera un peu, mais du coup, la France abandonne l'Égypte le 1er octobre 1801. Le phare d'Alexandrie, oui, avec la pyramide de Khéops, c'est l'un des monuments faisant partie des 7 merveilles du monde se trouvant en Égypte, oui. Monument disparu, on en parlait tout à l'heure.
Le colosse de Rhodes, le mausolée, voilà.
Ce phare d'Alexandrie, quelle merveille quand même. Alors, le nom des gagnants, qui partira pour 4 personnes, évidemment, visiter à la porte de Versailles cette magnifique exposition de Toutankhamon, eh bien c'est Marie-France qui habite Bois d'Arcy. C'est également Rénal, je ne donne pas les noms de famille, qui habite Caen. C'est aussi Christophe qui habite, Abondant, enfin ça existe, c'est dans le département 28. Francine Chalom qui habite la Varenne-Saint-Hilaire, bien joué dans le 94. Et Jean-Christophe qui habite Paris. Vous voilà affublés de 4 places.
C'est vraiment, je me réjouis pour vous par avance et pour tous nos auditeurs qui iront voir cette belle exposition. C'est vraiment une de ces expositions majeures qu'il ne faut pas manquer, car si vous n'avez pas le projet sous peu d'aller en Égypte et d'aller au Caire voir le contenu du tombeau de Toutankhamon, eh bien il faut impérativement aller voir ça à Paris. C'est vraiment une chance unique qui vous est donnée, et cette exposition a été réalisée avec un soin et un goût absolument exceptionnel. C'est très émouvant, croyez-moi sur parole, vous ne regretterez pas. Il y aura peut-être une petite file d'attente, mais vraiment c'est bien cher, peu payé pour le plaisir de voir ce trésor de Toutankhamon.
Voilà, spécial Égypte aujourd'hui. Merci beaucoup Clémentine qui l'a visité évidemment dès jeudi, qui peut vous en parler avec tant de cœur et de reconnaissance. Bravo à Isabelle et Apolline, elles ont tout raflé aujourd'hui. Envoyez-nous une petite carte quand vous serez l'abbaye de Régny, parce que nous ça nous fait rêver ça, vous voyez. L'abbaye sous l'autorité de Saint-Bernard construite en 128, pour nous c'est magnifique. La semaine prochaine nous serons à Metz, les amis, hein, Clémentine,
voilà, samedi, voilà. Pour l'anniversaire du Beaubourg de Metz. Ah oui,
qui marche très bien, étant
très
mieux.
Très belle ville de Metz aussi, voilà. Sur laquelle nous aurons bien des choses à vous raconter. On va faire une spéciale Metz ou une spéciale Lorraine.
Une spéciale Lorraine la semaine prochaine pour le Grand Quiz des Histoires de France à 13h30.
Il va falloir nous trouver un bonus quiche Lorrainus, quelque chose comme ça.
Ou Flammenküche, on n'est pas à l'abri. Excellente journée sur RTL. Vous avez rendez-vous avec la liste préférée d'Éric Jean-Jean, et pas n'importe laquelle, c'est celle de Laurent Voulzy.